Nous allons poursuivre avec le truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne tous et toutes, la chronique de Benjamin Bellani. Et donc on le retrouve là. Donc aujourd'hui, Benjamin, tu vas nous parler de la guerre des intelligences artificielles.
Bonjour Étienne. Alors non, changement de programme. Aujourd'hui, je fais un tuto bricolage. Pour faire une chronique vraiment utile, je me suis dit que j'allais plutôt vous apprendre à monter un meuble en bois quand vous avez perdu le tournevis. Alors regardez bien, vous allez voir, on s'en fait toute une montagne, mais c'est très facile. Et voilà, un bon coup de marteau et pas mal d'entraînement, et il n'y a pas une seule vis qui résiste. Prévoyez toutefois quelques centaines d'heures pour vous entraîner. Parce que sinon, ça va se finir en catastrophe. Bon, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. Et dans les 5 minutes qui nous restent, je vais vous montrer en 42 étapes comment choper le truc. Alors, étape 1, bien évidemment, pour commencer, un classique, la vis à bois à tête fraisée cruciforme.
Attends, Benjamin, excuse-moi de t'interrompre. Ça a l'air vraiment très intéressant ton tuto, mais déjà, c'est pas du tout radiophonique. Et puis, on s'est mis d'accord que tu parles d'IA. Et en plus, ça tombe bien avec l'actualité. C'est la semaine du sommet pour l'action sur intelligence artificielle.
Ah ouais, mais moi, j'avais vachement préparé mon tuto, là. J'avais même posté une vidéo sur Loops pour illustrer mon propos.
On la mettra dans les notes de l'émission, si tu veux.
Promis ?
Promis.
Bon, je vais vous parler d'IA, alors, mais c'est bien parce que c'est la semaine du sommet sur l'action sur l'IA. Par où je commence, alors ?
D'habitude, tu simplifies et tu commences par une métaphore.
Ah ouais, bonne idée, tiens. Disons que dans une certaine mesure, l'IA permet de simuler les mécanismes d'apprentissage des êtres humains, d'où le nom intelligence artificielle, voilà.
C'est-à-dire ?
Imagine que tu joues à la pétanque, tu vises le cochonnet. En cours de mécanique à l'école, t'as appris que la somme des forces est égale au produit de la masse par l'accélération. Donc, c'est facile. Quand tu lances la boule, tu calcules la vitesse V0 et l'angle alpha pour calculer la distance parcourue D qui vaut V0 au carré sur G fois sinus 2 alpha. Et pour que ça corresponde à la distance du cochonnet. C'est facile, non ?
Enfin, personne ne joue à la pétanque comme ça.
Ouais, t'as raison. Il n'y a pas besoin de savoir calculer un tir balistique pour jouer à la pétanque. Mais comment c'est possible de réussir un lancer sans avoir la moindre idée des équations qui le régissent ? Dans la pratique, on apprend par une succession d'essais. À force de lancer des boules de pétanque en haut, à droite, à gauche, doucement, fort, des centaines et des milliers de fois, on finit par deviner ce qui va se passer sans passer par le calcul. Quand tu attrapes un ballon de basket, c'est pareil. Tu pourrais calculer sa trajectoire en fonction de sa vitesse initiale, sa masse, etc. Mais dans la vraie vie, on développe des tas de raccourcis mentaux basés sur nos expériences, des heuristiques ou des biais cognitifs. Ils sont indispensables, sans eux, on ne survivrait pas au premier passage clouté. Et notre cerveau fonctionne naturellement comme ça pour tout, en commençant par le langage. Quand tu parles avec un étranger qui te pose une question de grammaire sur ta langue maternelle, il y a toujours un moment gênant où tu lui réponds « parce que ça sonne mieux comme ça ». Par exemple, quand est-ce qu'on doit utiliser l'auxiliaire « être » ou l'auxiliaire « avoir » ? On a appris par l'expérience, la règle, on la connaît même pas, et pourtant elle existe. On utilise « être » avec les verbes perfectifs qui expriment un mouvement ou un changement d'état et les verbes pronominaux.
Mais quel rapport avec l'IA ?
L'IA fait exactement pareil. L'IA reste un programme informatique, mais plutôt que de modéliser le fonctionnement intrinsèque d'un système et de répondre à des questions en résolvant les équations sous-jacentes, c'est comme ça qu'on a envoyé des hommes sur la Lune, un programme basé sur l'IA va se contenter d'observer le système un grand nombre de fois dans des conditions diverses pour ensuite deviner les réponses aux questions en cherchant des similitudes probables. Si on filme assez de lancers de boules de pétanque, le programme n'a plus besoin de connaître les équations de mécanique pour savoir où la boule va tomber.
Un peu comme le biais cognitif dont tu parlais alors.
Tout à fait. Au sens des neurosciences, les mécanismes de l'IA s'inspirent beaucoup des biais cognitifs. Ça explique d'ailleurs pourquoi on entend souvent que les IA sont pleines de biais statistiques. C'est la conséquence directe de leur mode d'apprentissage. On voit là l'incroyable importance des données utilisées pour entraîner ces programmes. Dans le jargon, on parle de dataset. Si ces datasets ne contiennent pas certains types de données, l'IA ne saura pas comment les interpréter quand elle les verra.
Mais ça sert à quoi de prendre ces raccourcis à une époque où les ordinateurs sont devenus ultra rapides ?
En fait, c'est super utile. On a beau avoir des ordinateurs très rapides, il y a encore des tas de calculs où ils vont pas assez vite. Dès qu'on a des systèmes complexes multidimensionnels avec trop d'inconnus, on atteint encore des temps de calcul de l'ordre du siècle, voire pire. Et exactement de la même manière qu'un Parisien traverse un carrefour en courant sans sortir sa calculette pour calculer les trajectoires des voitures en mouvement, l'IA permet de trouver des solutions en quelques secondes alors que ça prendrait des années en résolvant proprement les équations. Sans compter les cas où on ne serait même pas en mesure de trouver le modèle mathématique sous-jacent.
Je suis un peu déçu, en fait, t'es un vrai défenseur de l'IA.
Alors, j'ai pas à être pour ou contre l'IA. Ça aurait pas plus de sens que d'être pour ou contre les multiplications. L'IA est un outil informatique pour résoudre des problèmes complexes dans un temps humainement acceptable. Mais bon, les polémiques autour de l'IA, elles sont de deux ordres. Un, le champ d'application totalement nouveau qui a émergé peut poser de nouveaux problèmes. Et deux, la manière dont les IA sont entraînées est souvent suspecte. Bon, pour ce qui est des nouveaux champs d'application, on n'a aucune raison d'être inquiet, puisque l'Europe a mis en application l'IA Act en août 2024, et il encadre ces applications en définissant quatre niveaux de risque avec des exigences pour chacun. Et cela nous protège de tous les abus. Par exemple, de l'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public. Bon, sauf... dans le cas où les députés auraient aquaponé parce qu'on accueillerait les Jeux Olympiques en France, mais franchement, ça serait vraiment pas de chance.
Je te sens un peu cynique.
Qu'on utilise une technologie non éprouvée et interdite en Europe, non, vraiment, je vois pas pourquoi tu dis ça. Et puis bon, ils ont promis, juré, craché que c'est juste pour la durée des JO.
Et donc, tu parlais de suspicion sur l'entraînement des modèles.
Oui, pour pouvoir fonctionner, une IA a besoin d'entraînement et donc de données d'entraînement, les fameux datasets. Le premier souci, c'est que bien souvent, les données collectées pour constituer ces datasets le sont de manière totalement illégale. Violation des droits d'auteur, des licences d'utilisation et bien sûr, last but not least, du RGPD. Ils sont les nouveaux Napster. Ouais, c'est pas super légal, mais c'est pas grave parce que regardez comme c'est super méga cool. Que les choses soient bien claires, il n'y a pas besoin de légiférer là-dessus. La plupart des outils violent déjà les lois de tous les pays où ils opèrent.
Et personne ne dit rien.
Ah, on entend quand même de plus en plus de voix s'élever contre ce pillage planétaire. Mais le problème, c'est que c'est difficile de retrouver les données volées juste en utilisant ces outils. Et même si certains fournissent quelques informations, c'est jamais suffisant. Ils ne donnent pas les datasets, les données avant entraînement.
Mais beaucoup sont quand même du logiciel libre.
Alors non, beaucoup le disent. C'est différent. Se contenter de fournir le code source qui permet de faire tourner un modèle entraîné, les paramètres, et prétendre que c'est open source, c'est un mensonge. C'est de l'open source washing.
Mais dans les modèles fournis, on ne devrait pas pouvoir retrouver les données initiales, non ?
Ben, c'est pas si simple. Si t'as appris à jouer à la pétanque en regardant faire les pros et qu'aujourd'hui, grâce à eux, t'as un bon petit niveau, est-ce que pour autant tu seras capable de décrire tous les coups que tu les as vus jouer ? Un modèle entraîné, c'est quasiment une boîte noire. On ne sait pas comment il a été généré, et aujourd'hui, tous ces organismes qui engloutissent en masse nos données et des kilowattheures pour vanter leurs IA et qui font la course à celui qui a la plus grosse, c'est juste ça la guerre des IA. Et comme pour les moteurs de recherche il y a 25 ans, tous craignent qu'à la fin le gagnant rafle la mise et qu'il n'en reste qu'un façon Highlander.
Et dans cette course, en France, on est encore plutôt à la traîne, non ?
Eh ben, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'on fait la course en tête, mais j'ai probablement pas les mêmes critères. Alors, j'imagine que tu fais allusion à Lucie, raillée sur les réseaux sociaux, et accusée d'avoir le QI d'une Australopithèque shootée au LSD. Ouais, bon. Donc ici, on parle de LLM, les grands modèles de langage. Ces systèmes ont un fonctionnement probabiliste. Ils fonctionnent comme un joueur de domino. Ils alignent les mots les uns derrière les autres, en posant le mot suivant le plus probable par rapport à ce qui précède, à la lumière du dataset sur lequel ils sont entraînés. Ces outils peuvent être vraiment extrêmement utile pour manipuler des données textuelles en entrée ou en sortie. Mais l'important, c'est de comprendre un minimum comment ils fonctionnent pour les utiliser à bon escient.
Ce que tu dis, ça ressemble quand même pas mal à de la langue de bois.
Ah, c'est pas mon genre, hein. Donc je vais expliciter ma pensée. On a vu qu'un modèle entraîné posait plusieurs problèmes. C'est une boîte noire, donc on peut pas savoir si des données illégales ont été utilisées. Et puis, si l'outil se met à halluciner trop fort, on n'a pas vraiment de moyen de comprendre l'origine du problème pour le corriger. Si t'as Mein Kampf dans un dataset, c'est quand même mieux de le savoir. Et Lucie, elle fournit tout. Le dataset complet, les paramètres, le modèle entraîné, les codes sources de tous les programmes. Et pas les autres. Alors, mais rien que pour ça, moi, ça élimine tous les autres. Il n'y a même pas de débat.
Oui, mais tu sais bien comment ça se passe. C'est peut-être triste, mais on préférera toujours un outil qui fonctionne mieux à un outil fourni avec la notice de montage complète.
Effectivement, c'est triste, mais c'est surtout une mauvaise analyse. Pour être tout à fait honnête, les tests que j'ai vus passer sur Lucie ont fait naître en moi un profond sentiment de désespoir dans les utilisations faites de l'IA. Par exemple, j'ai vu en boucle passer un test arithmétique simple, 5 fois 3 plus 2, et Lucie répondait 17 au lieu de 25.
Ça, tu peux même pas dire que c'est juste.
Alors, je dis pas que c'est juste, je dis juste que poser une question de calcul mental à un LLM, c'est juste totalement débile.
Mais c'est pour tester. Si c'est sur un calcul aussi simple, le résultat est faux. Qu'est-ce que ça donnera avec des calculs plus compliqués ?
Le problème de fond, c'est qu'un LLM ne comprend absolument rien à ce qu'il écrit, rien. Il n'y voit aucun sens. Il se contente d'aligner les mots comme des dominos par rapport à ce qu'il a déjà vu. S'il a déjà vu 5 x 3 plus 2 égale 17, ben, il va trouver que ça ressemble quand même vachement. Donc statistiquement, 17 est effectivement la réponse la plus probable. Alors c'est sûr qu'en engloutissant beaucoup plus de données et d'énergie, en bachotant sans rien piger, il va finir par y arriver. Mais on l'arrête quand ? C'est quoi la limite ? Parce que là, le calcul est simple et l'erreur se détecte facilement, mais attention, tous les LLM, tous font des erreurs, c'est inhérent à leur conception. On va juste pouvoir repousser un peu leurs limites le moment où ils font l'erreur. Et si le calcul est compliqué, eh ben on sera même plus en mesure de se rendre compte que la réponse est totalement bidon. Alors que d'autres outils, au hasard, une calculette à 5 euros, le feront sans erreur et sans nécessiter la consommation électrique d'un data center pendant des mois d'entraînement. Demander à un LLM de faire des calculs n'a aucun sens, aucune utilité réelle qui soit pas dangereuse. Vouloir utiliser des IA sans comprendre leur mécanisme juste parce que ça a l'air cool est idiot. Et désolé de le dire ainsi, mais c'est aussi con que de vouloir planter une vis avec un marteau.
Merci Benjamin, on te retrouvera le mois prochain. Et d'ici là, tous les mercredis dans ton podcast RDGP, le podcast sérieux qui vous emmène au cœur des enjeux des droits numériques, des libertés individuelles et de la vie privée.
Merci Étienne.